Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Bon après-midi à vous tous. D'où on va commencer ce quatrième cours qui va porter sur les problématiques d'électrolytes. Mais auparavant, on va quand même terminer tout ce qu'on avait fait au départ sur les anodes négatives pour les batteries à ion sodium. Alors, un bref résumé, je dirais, de ce qu'on a vu de plus important la dernière fois, concerne finalement ce que sont les carbones durs qui sont utilisés comme électrodes négatives dans les batteries sodium-ion. Et on avait vu que le mécanisme est indiqué ici. On a un mécanisme en trois étapes, dans lequel on a tout d'abord l'absorption du sodium. Ensuite, dans la zone bleue, on a l'insertion du sodium. Et enfin, sur le plateau, où on a tout simplement dans ce cas le remplissage des nanopores par du sodium, c'est-à-dire des clusters de sodium. Et on avait montré que ces mécanismes étaient réversibles, et on avait également montré les travaux, je dirais, considérables qui ont eu lieu pour essayer de jouer avec l'amplitude de ces deux domaines. Ensuite, on va passer aujourd'hui sur les anodes bidimensionnelles. Je vous ai montré que les Maxen, un simple transparent, n'apportaient pas grand-chose en termes d'électrons négatifs. Et on va voir les oxydes, les anodes de type commercion, les anodes de type alliage, et les anodes de type commercion-alliage. Et vous allez voir que lorsque je vais couvrir tout cela, je dois le faire parce qu'au Collège de France, on doit directement décrire la recherche en train de se faire. Et vous allez voir que beaucoup de ces études sont, je dirais, pas les plus utiles, et si ce n'est qu'à remplir des papiers. D'où, tout d'abord, on va voir directement le cas des oxydes, et est-ce qu'on peut avoir des oxydes lamellaires comme électrodes négatives. Et là aussi, sur le long de ce cours, vous allez voir que je vais me servir constamment de ce qu'on a appris dans le cas du lithium-ion ou notre connaissance sur le lithium-ion. Effectivement, lorsqu'on travaille sur le lithium-ion, si on regarde les électrodes négatives, puis on s'aperçoit que si on travaille avec tous les éléments qui sont de la droite du tableau périodique, eh bien on a des réactions de conversion. Seul, lorsqu'on va vers la gauche, il y a le titane et le vanadium, où on peut avoir des mécanismes d'insertion. Et d'ailleurs, un composé a été rapporté pour avoir un redox potentiel à 0,3 volts. Donc par conséquent, à l'époque, d'ailleurs, avec l'orateur qui vous entendrait par la suite, on avait collaboré et on avait directement déterminé ou identifié ces phases, notamment la phase Na2-Tu3O7, qui était une phase utilisée pour d'autres applications, dans les capteurs ou en catalyse, qui pouvaient être utiles peut-être pour l'intercalation du sodium. Et vous voyez, dans ce cas, vous avez une structure d'octaèdre en zigzag qui forme des couches à l'intérieur desquelles on peut y insérer des atomes de sodium. Et effectivement, lorsque nous avons fait ces mesures, comme vous pouvez voir ici, on s'est aperçu que l'on pouvait, dans ce cas, effectivement, mettre ou insérer deux sodium par unité formulaire. Ce qui vous donne, dans ce cas, des capacités aux alentours de 220 ou 230 mAh par gramme, avec, dans ce cas, il faut le reconnaître, un matériau qui ne conduit pas terriblement, raison pour laquelle nous sommes obligés d'y ajouter 30% de carbone, et ça a été une difficulté, je dirais, de cela. À l'époque, on avait pu démontrer que grâce à cette anode, dont le potentiel à 2,2 volts est certainement le potentiel le plus bas qui avait été observé, on pouvait effectivement faire des cellules complètes sodium-ion. Alors là aussi, je vous ai montré cela, ce n'est rien d'autre pour la démonstration du concept. Vous voyez que les capacités qu'on pouvait obtenir étaient ridicules, c'était juste pour montrer que ça pouvait fonctionner. Alors bien sûr, lorsqu'il y a ces matériaux, d'autres chercheurs ont essayé de tirer davantage de profit de ces matériaux en jouant, sur l'aspect nanométrique ou l'aspect morphologie de ces matériaux. Et c'est ainsi qu'il y a eu des études qui ont été directement, illustrées, comme illustrées ici, dans lesquelles on va, dans ce cas, préparer des nanorubans de cette phase. Alors cela se fait en dispersant du TiO2 dans une solution d'hydroxyde de sodium, en mettant cela à une autoclave, on fait une méthode de lyophilisation et ensuite on va tout simplement mélanger l'ensemble avec des carbones nanotubes. Pour obtenir ici, vous voyez, ces particules que l'on obtient par méthode hydrothermale sont des particules, parallépipèdes qui contiennent, vous voyez ici, plusieurs particules ou plusieurs monocristaux, comme vous voyez très bien ici sur la diffraction électronique, de cette phase NTO. Et le tout étant enrobé, dans carbones. Et grâce à cela, vous pouvez voir que les chercheurs ont obtenu, des capacités ou une insertion relativement complète. Et surtout, ils ont pu obtenir ces matériaux et les faire cycler avec des quantités relativement moindres de carbone, puisque le carbone maintenant est enrobé autour des particules, avec des régimes de 20C. Ils ont pu obtenir une très bonne autonomie en cyclage, mais surtout des capacités de 100 mAh par gramme. Donc voilà directement ce qu'on peut faire au niveau, de nouveau, d'action sur la morphologie des particules de façon à améliorer ses propriétés. Alors bien sûr, une fois de plus, si on regarde directement qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer la puissance de ces charges de matériaux ou de ces phases au titane ou autre à de faibles potentiels, eh bien là aussi, on va s'inspirer de ce qui s'est fait dans le cas du lithium-ion. Et là, je voudrais vous ramener des études qui sont très importantes, qui ont eu lieu dans le cas du lithium, avec notamment des phases de type TI, NB2O7. Alors pourquoi le niobium ? Mais le niobium nous intéresse fortement, car il a un redox qui peut directement avoir deux électrons. C'est-à-dire qu'on peut avoir niobium plus 5, tout niobium plus 3. D'où on peut augmenter considérablement les capacités. Et dans ce cas, bien, vous avez la structure, qui sont les fameuses phases de Wassily, dans laquelle vous voyez ici le bloc RO3, et on peut, dans ces matériaux, vous voyez, obtenir des capacités allant jusqu'à 250, voire 320. Et ça, eh bien, c'est très important, car c'est vraiment une alternative à le carbone ou le graphite qu'on utilise dans le cas des batteries à ion lithium pour des technologies de puissance. Et vous voyez ici les matériaux ou des cellules complètes, 1250 ou autres, vous voyez SKIB, une matérie qui est commercialisée sur ce principe, utilisant comme TNB7 comme anode négative et NMC comme anode positive. Et aujourd'hui, je dirais, cet accumulateur ou cette batterie est certainement la batterie la plus concurrente du LFP, du sodium-ion en termes de puissance. Alors, je dirais, dans la même veine de recherche, des travaux sont faits également avec ces titanates, comme indiqué ici. Et en effet, vous voyez ici les premiers travaux qui ont été réalisés sur une phase Na2Ti6O13, dont vous pouvez voir la structure qui ressemble presque à celle qu'on a étudiée auparavant, dans lequel, dans ce cas, les chercheurs ont remplacé une partie du titane, ou très faible quantité d'ailleurs, 0,08, par du niobium, en jouant sur l'état de valence du niobium. Mais surtout, ce niobium va tout simplement modifier l'ionocovalence des liaisons, et notamment va renforcer la ionicité des liaisons NaO, ce qui va permettre, dans ce cas, d'ouvrir, je dirais, l'espace interfeuillé et d'avoir une meilleure diffusion. Et grâce à cela, ils ont pu obtenir des matériaux dont les capacités ne sont pas tellement, importantes, aux alentours de 120 ou 130 mAh par gramme, mais avec, dans ce cas, une tenue en puissance ou un comportement en puissance meilleur, du fait qu'on a un ou voire deux électrons imbriqués directement dans ce procédé. Et enfin, se rapprochant encore plus des travaux, ce que je montrais auparavant sur les titanates de niobium, vous voyez ici une phase de la forme TI088 NB088O4-X qui a été préparée, par une méthode template à basse température pour obtenir une composite mésoporeuse avec, dans ce cas également, de très bonnes performances en puissance. Et ici, vous voyez qu'on peut maintenant, grâce à ce matériau, avec le sodium, avec des potentiels aux alentours de 0,7 à 0,8 volts, obtenir des très bonnes capacités allant jusqu'à 300 mAh par gramme. Et vous avez ici le comportement en puissance qui se passe dans ces systèmes. Et ça, c'est des travaux qui sont très intéressants. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas été encore directement démontrés en cellule complète vis-à-vis d'électrodes positives, que ce soit du LFP ou du NMC. Donc voilà ce qui se fait au niveau des oxydes en ce qui concerne les anodes pour les batteries à ion sodium. Le point suivant que je voudrais aborder maintenant, c'est une autre classe de matériaux qui sont utilisés comme électrodes négatives, la même chose qu'on a vu dans le cas du lithium-ion. Il s'agit maintenant directement des alliages. Et les alliages, rappelez-vous, on avait plus ou moins le même transparent il y a de cela un an ou deux ans dans le cas du silicium, où on s'aperçoit maintenant, si on prend ces différents matériaux, que ce soit l'antimoine, le bismuth, le silicium, et vous voyez qu'ils ont tous des capacités supérieures au carbone. Donc là aussi, toujours la même question, c'est pourquoi alors on ne les a pas utilisés. Mais pour la bonne et simple raison, c'est qu'une fois de plus, comme dans le cas du silicium, lorsque vous allez insérer 3 ou voire 4 lithium ou 4 sodium dans ces matériaux, eh bien, vous allez avoir un changement de volume très important. Et bien sûr, ce changement de volume est encore plus important avec le sodium, du fait, tout simplement, de la taille du rayon ionique du sodium, qui est nettement plus large que le lithium. Et c'est la raison pour laquelle, avec le sodium, eh bien, on a des expansions, qui vont aux alentours de 420% finalement, la particule. D'où vous avez automatiquement, dans ce cas, un broyage électrochimique des particules, et ainsi de suite. Et je dirais qu'il a fallu presque 25 ans de recherche sur les batteries à ion lithium et pour maîtriser cette électrode négative de silicium. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des accumulateurs commerciaux qui utilisent une électrode négative de carbone et de silicium avec des mélanges de 10%, et même des compagnies tentent d'aller au-delà, jusqu'à 50 voire 60% de silicium à l'intérieur de ces électrodes négatives, avec des performances qui sont, je dirais, relativement correctes à température ambiante, mais des tenues en cyclage quand même qui sont limitées aux alentours de 1000 ou 1500 cycles. Alors, comment ces alliages fonctionnent et de quoi s'agit-il ? Alors, je vais commencer par vous décrire, bien sûr, je ne vais pas tous les passer en revue, je vais commencer par celui qui me semble le plus intéressant, qui est tout simplement l'alliage ou les alliages d'étain. Et ici, je vous représente tout simplement le diagramme de phase établi en fonction de la température pour ce binaire sodium-étain. Et vous voyez que vous avez de nombreuses phases que l'on peut préparer par ces mesures en différentes températures. Et en dessous, je vous donne directement, je vous montre finalement la courbe électrochimique avec, bien sûr, des plateaux, des pentes qui correspondent à des phases définies. Et on peut voir qu'on a finalement, après, on a cette phase Na15 SN4, la même que vous retrouvez ici. On a une bêta SN, on a également une phase NaS2. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, par électrochimie à température ambiante, on va pouvoir synthétiser ou stabiliser des phases qui sont, dans ce cas, des phases métastables qui, en allant à température, vont pouvoir se décomposer. Et tout ça, bien sûr, ça donne lieu à une littérature qui est très riche. Et je vous directement montre ici un tableau des différents papiers, mais je pourrais vous en montrer deux ou trois pages qui vont directement commenter le comportement de ces différents alliages. Et là aussi, ces alliages, eh bien, il y a des problèmes ou des limitations en termes de cyclage, associés une fois de plus à, soi-disant, la taille des particules, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle il y a des études considérables qui ont été directement dédiées à, encore une fois de plus, à ajuster la morphologie de ces particules. Et là, vous allez avoir des quantités de papier qui vont vous montrer, ou qui vont s'intituler tous avec nano-architecture, nano-matériaux, nano-hiérarchie, et ainsi de suite. Alors vous voyez ici le premier exemple, qui est très loin de notre pratique. Dans ce cas, eh bien, ce que vous regardez ici, ce n'est rien d'autre directement qu'une électrode faite de piliers, et ces piliers à l'intérieur, TMW, ce n'est rien d'autre qu'un virus sur lequel on va aller déposer du nickel pour ensuite aller déposer de l'étain et du carbone pour avoir des électrodes qui fonctionnent. Vous voyez réellement l'utilité de ces genres de travaux. Okay. Et cela, eh bien, on a connu ça il y a 10 ans dans le cas du lithium, des travaux de MIT, d'Angela Belcher, qui avait démontré directement tous ces travaux des réactions de conversion sur des virus. Dans ce cas, c'est un virus du tabac, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on va aller sur des alliages avec différents métaux de transition, dans lesquels on va choisir des métaux de transition qui vont être, je dirais, actifs électrochimiquement ou non. Dans ce cas, on va prendre du cuivre et on va former des alliages SN09-CU01 et on va directement comparer les tenues en cyclage. Et bien sûr, on a toujours des tenues en cyclage lorsqu'on compare meilleur qu'avec nos références, puisqu'on ne prend pas les références, je dirais, à la hauteur. Ensuite, vous avez les mêmes travaux qui se font, et là aussi, vous pouvez imaginer le nombre de papiers qu'il peut y avoir, dans lequel on va faire des substitutions ou des alliages avec le germanium, l'antimoine, le bismuth, et ainsi de suite. Et vous voyez, dans ce cas également, vous avez toutes les courbes électrochimiques qui sont rapportées. Vous voyez, jusqu'à 50 cycles, il n'y en a pas une courbe directement qui montre, je dirais, une capacité, je dirais, constante. Et enfin, bien sûr, on va faire des matrices de carbone avec ce qui est aussi très, très populaire, du reduced graphene oxide pour augmenter la teneur. D'où, dans tout ce cas aussi, c'est 95% des papiers qui vont rapporter des cellules avec des masses inférieure à 2 mg, et bien sûr, dans aucun des cas, vous allez avoir des cellules complètes qui ont été effectuées. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que tout ce travail sur la morphologie des particules est vraiment utile? Bien, la question, elle peut être répondue ici. Voilà des travaux qui ont été faits dans lequel, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser des particules micrométriques sans dépôt de carbone, mais qui vont être simplement mélangées avec du carbone. Ce sont des particules de 5 à 20 microns. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut obtenir des tenues en capacité relativement correcte, puisqu'on va jusqu'à 100 cycles. Et de nouveau, avec cependant, comme vous pouvez voir ici, un électrolyte qui est du glym avec une solution de 1 molaire de NaPF6. Et ça, je dis, ça va être relativement critique dans toute cette utilisation de matériaux d'électronégatifs, avoir le bon électrolyte pour finalement avoir les meilleures performances. Et je vous montre finalement qu'avoir l'électrolyte est drastique, ou avoir le bon électrolyte est drastique sur les performances électrochimiques, où je vais vous montrer finalement le comportement, dans ce cas, d'une batterie complète, qui est tout simplement, va être basée comme électrode positive de NaVPF, de polyanionique, dont je l'ai mentionné dans les cours précédents, et de NaXSN comme électrode négatif. Et vous voyez ici que selon, directement, notamment dans le cas de l'étain, vous voyez que dans les électrolytes normaux, eh bien, j'ai une chute en capacité relativement normale, forte, et en présence de glym également. D'où à ce jour, si vous voulez, on est à la recherche d'électrolytes pouvant combiner des matériaux d'électrode positive à potentiel oxydant très élevé et avec l'étain comme électrode négative. Et je reviendrai sur ce point, certainement pas à la fin du cours, mais dans le prochain, la raison de tout cela et la science qui a derrière ces questions. Donc voilà ce qui se fait dans le cas de l'étain. On peut aller ensuite dans le cas de l'antimoine, ou dans ce cas, dans le cas de l'antimoine, c'est un, je dirais, un matériau relativement intéressant. Vous voyez que, intéressant par le fait que dans ce cas, vous voyez que la première décharge eh bien, va être différente des décharges dans des cycles suivants. Et cela va s'expliquer par des problèmes de transition de phase, où on va passer de phase cristalline à des phases amorphes, cristallines, avec des procédés pas totalement réversibles, du moins durant le premier cycle. Là aussi, c'est tout simplement des résultats quand même relativement intéressants, car là, il n'y a pas d'histoire d'ajuster la morphologie, vous avez tout simplement des particules de ce matériau. Et vous voyez que dans ce cas, là aussi, on peut obtenir, regardez la courbe en rouge, avec des régimes C sur 2, on peut obtenir des régimes des 160 cycles avec des capacités de 550 à 580 mAh/g. Mais notez une fois de plus, de nouveau, l'électrolyte qui a été, je dirais, amélioré, ou je peux dire confectionné, pour avoir des performances intéressantes. Et ici, eh bien, vous avez également ce matériau qui a une tenue en puissance, ou une performance en puissance, qui est relativement intéressante. Et on peut, dans ce cas, eh bien, également essayer de construire des cellules NVPF SB carbone. Et vous avez des cellules ici, dans ce cas, qui sont des cellules, je dis, des cellules pile-bouton, dans lesquelles ce matériau a pu être cyclé jusqu'à 80 cycles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce cas, eh bien, on va utiliser des électrolytes plus ou moins classiques avec des carbonates. C'est-à-dire, on n'est pas obligé. Alors, dans le cas de l'antimoine, eh bien, il est beaucoup plus transparent à la nature des électrolytes. Donc voilà les types d'alliages que l'on peut faire. Et sur le graphe que je vous ai montré auparavant, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez un composé ou un élément qui avait une capacité relativement importante, qui était le phosphore. Donc qu'est-ce qui se fait avec le phosphore et comment ? Bien, le phosphore, d'abord, c'est intéressant de savoir qu'il y a trois formes de phosphore. Il y a la forme blanche, la forme rouge et la forme noire, et c'est ces deux dernières qui sont les plus utilisées. Bon, la forme blanche est hautement toxique, raison pour laquelle on ne va pas l'utiliser. Par contre, vous voyez ici des capacités théoriques qui sont aux alentours de 2000-2600 mAh/g. Mais, malheureusement, bien là aussi, le phosphore a une très faible conductivité électronique. D'où, une fois de plus, on va encore aller dans le jeu de faire des particules, je dirais, hiérarchisées, et ainsi de suite. D'où ces travaux que je vous rapportais ici, dans lesquels, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement, par des procédés, je dirais, de nucléation spécifique, créer des nanosphères creuses, à coquilles poreuses, pour directement utiliser ces matériaux comme électronégatifs. Et ici, vous avez tout simplement une sphère poreuse avec des trous. C'est une schématique, bien sûr, mais ces trous proviennent de la façon dont ces phases sont préparées, notamment sous flux gazeux. Et vous voyez qu'on peut, dans ce cas, avec une fois de plus 30% de carbone pour apporter la conductivité électronique, obtenir, je dirais, des capacités de 2000 mA par gramme, je dis à 25 degrés, et ensuite, on peut voir quelle est la performance en puissance, mais une fois de plus noté ici, et j'ai essayé dans tout cet exposé d'ailleurs, de rapporter systématiquement la masse de matériaux qu'on met à l'électrode négative pour montrer combien on est loin de la réalité. Okay. Ensuite, il y a une expérience que je trouve aussi très intéressante et qui montre un peu, finalement, l'esprit dans lequel toutes les recherches sont faites. Là, vous avez une expérience qui est, je dirais, sur un papier relativement intéressante. C'est une expérience dans laquelle on va, dans ce cas, maintenant tester ou essayer d'utiliser ce phosphore rouge, comme indiqué ici, en allant faire un dépôt à la surface de ce matériau. Et dans ce cas, eh bien, on va faire, si je peux dire, un procédé de déposition autocadéatique, qu'on appelle également un procédé électrolèse, où on va aller déposer. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est autocatalytique, on va utiliser du palladium. Et là aussi, il y a des, je vous ai montré quatre étapes, mais le procédé est autour de 6 à 7 étapes. Pour, à la fin, obtenir des quantités de produits relativement faibles, et ensuite, pour mesurer les performances, sur des électrodes, il ne faut plus de 2 mg par centimètre carré, et ainsi de suite. Vous voyez, si vous voulez, la complexité qui se met, ou qui se fait, de façon à préparer ces différents types d'éléments chimiques, de poudre, pour faire des composites, afin d'avoir des performances relativement correctes sur des cellules, mais avec des quantités infimes de 1 à 2 mg. D'où là aussi, je dirais, une fois de plus, beaucoup de papiers, certainement intéressants, mais rien ne présentant d'intérêt bien pratique. Et alors ensuite, bien sûr, je pourrais encore continuer, puisque je dois faire finalement je dois balayer toute la littérature, ce qui se fait sur d'autres éléments. Et je vais vous montrer ici un récapitulatif, dans le cas, bien sûr, tous les éléments ont été essayés. Alors le silicium, et ça, je dirais, peut-être d'un point de vue fondamental, c'est intéressant, il se comporte beaucoup moins bien avec le sodium qu'avec le lithium. Et là, ce serait intéressant d'aller comprendre le pourquoi de cela. Ensuite, vous avez, là aussi, encore des structures, je dirais, colonnaires, dans le cas du germanium, pour avoir une fois de plus, dans ce cas, meilleure conductivité électrique, mais également conductivité ionique pour avoir l'électrolyte qui s'insère à l'intérieur de cette forêt d'arbres finalement ou de piliers. Et enfin, vous avez le cas du bismuth, où là aussi on peut avoir des comportements électrochimiques indiqués ici, avec une courbe, je dirais, ayant pas mal d'accidents lors de la charge et la décharge. Et là, si pour conclure finalement sur ces problèmes d'alliage, eh bien je dirais que finalement, celui qui présente ou qui présente des performances à première vue le plus intéressant, c'est certainement l'antimoine, qui est le plus facile à utiliser. Le bismuth aussi a des très bonnes performances, ou du moins à l'échelle de cible pile-bouton, et enfin l'étain. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, eh bien que ces performances sont obtenues notamment avec des électrolytes de type GLIM, et ces électrolytes, eh bien, malheureusement, ne sont pas stables, très stable à haut potentiel, c'est-à-dire lorsqu'on va voir les combiner avec des électrodes positives en deçà de LFP ou plutôt ou si on veut prendre un MC ou encore des NVPF, ça risque d'être encore plus compliqué. Donc voilà, si vous voulez, je dirais ce qu'on peut raconter. Alors maintenant, eh bien, je vais passer à l'autre point, je vais laisser les alliages et pour passer aux batteries et aux réactions de conversion. Et là aussi, vous allez voir encore notre fiasco au niveau scientifique. Alors, là aussi, bien, je dois dire, on a été certainement malheureusement les premiers, en 2000, à démontrer ce nouveau schéma réactionnel. C'est-à-dire un schéma réactionnel dans lequel vous prenez un oxyde et vous faites une réduction électrochimique, vous pouvez le réduire au cobalt métallique ou à l'élément métallique. C'est-à-dire qu'en ce cas, vous pouvez utiliser 2, 3, voire 4 électrons. Il doit avoir des capacités, je dirais, formidables. Cependant, parce que vous voyez la courbe électrochimique, vous apercevez qu'il y a une capacité irréversible qui est relativement large. Vous voyez qu'à la première décharge la seconde décharge sont différentes. Vous voyez également la polarisation et ainsi de suite, l'efficacité et ainsi de suite. C'est ce qui fait que, je dirais, malgré tous les espoirs qu'on a mis sur ces matériaux, après 25 ans, ils n'ont pas pu être utilisés tout simplement dans les batteries en lithium. Il y a certes, je dois noter, un intérêt récent pour les batteries tout solides, notamment les batteries lithium-soufre, dans lesquelles certains groupes, certains chercheurs, essaient d'utiliser des dicalcogénures de fer et d'autres métaux de transition comme électrode positive et utiliser cette réaction de conversion pour générer du lithium-soufre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce papier qui finalement n'a pas servi à grand chose a été cité 10 000 fois. Mais la raison, elle est simple. Elle vient de deux points. C'est-à-dire qu'avec ces genres de réactions, eh bien, on peut faire toutes les sortes de matériaux, nanomatériaux, nanoarchitecture, et ainsi de suite. Et si vous couplez ça, nano, avec de belles photos de microscopie, eh bien, vous avez accès à tous les journaux, malgré l'intérêt pratique quasi inexistant. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va directement regarder ces systèmes. Eh bien, malheureusement, nous sommes en train de bégayer l'histoire, si je peux dire, où on repart dans la même démarche dans le cas des composés au sodium. Vous voyez ici la même réaction de conversion, et voilà directement tous les matériaux qui sont utilisés et beaucoup d'autres que je n'ai pas mis ici. Et vous allez avoir des papiers systématiquement pour chacun d'entre eux. Alors, inutile de vous dire que je vais parler directement, balayer tous ces papiers. Je vais vous donner un peu un aperçu de ce que vous allez trouver dans la littérature, qui, je dirais, au niveau comportement électrochimique, n'est pas des plus brillants. Alors, on retrouve les mêmes phases. Ces phases ont été publiées il y a une quinzaine d'années vis-à-vis du lithium. Vous les retrouvez vis-à-vis du sodium, avec dans ce cas des capacités qui sont relativement faibles d'ailleurs, pour un matériau dans lequel théoriquement vous devez réduire de 2,7 électrons. Dans le cas du oxyde de cuivre, où là même on va aller faire mais tout simplement travailler sur la nanostructure du matériau pour avoir des capacités relativement plus importantes. On peut continuer avec les oxydes, CO3 ou 4, où là maintenant CO3 ou 4, eh bien, pour pallier à la fameuse irréversibilité dont je vous ai mentionné au départ, qui est relativement large, eh bien, on va faire une étape de présodiation. Ce qui fait qu'en ce cas, on pourra parier avec une électrode positive. Regardez MNO, là aussi, et ainsi de suite. Alors, je vous mentionne ça pour les oxydes, mais l'avantage, si je peux dire, de ces réactions de conversion à l'époque, qu'on avait mis, en avance, c'est qu'on peut faire ça pour les oxydes, on peut faire ça pour les sulfures, pour les sélénures, pour les nitrures, et même pour les hydrures. Vous avez, une panoplie de matériaux, et je ne vais pas une fois de plus encore aller sur tout ce qui se fait. Je vous mentionne également, au niveau des phosphures de métaux tradition, vous avez toutes les phases qui ont été balayées, avec, bien sûr, pour chacune des phases, un papier, et avec une performance certainement supérieure à la référence. Je pourrais en faire autant pour directement les nitrures, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à ces réactions de conversion, mais aucune de ces publications ne montre des résultats appréciables en matière de performance électrochimique. Alors maintenant, on peut continuer, et on peut, là, pour résumer le tout, on va directement essayer de profiter des réactions de conversion, plus des réactions d'alliage. Et là, théoriquement, on a un monde merveilleux. Et effectivement, sur le papier, on peut s'apercevoir que si on prend maintenant, on va cumuler la réaction, tout simplement, d'alliage plus la réaction de conversion, eh bien on peut avoir des densités gravimétriques ou volumétriques qui sont relativement importantes. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, ce n'est pas compliqué, vous faites directement, vous écrivez les réactions, vous avez la réaction de conversion de SP2O3 avec 6 électrons pour vous donner 2 antimoines, qui simplement, vont tout simplement être alliés électrochimiquement par le sodium pour donner ça. Vous avez finalement 12 électrons pour SP2O3, vous avez finalement une capacité de 1200 mAh par gramme, ce que vous trouvez à peu près ici, comme indiqué sur ce tableau. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi certains de ces matériaux, là aussi, ont été intéressants. Une fois de plus, vous allez voir que les réactions, il y a des irréversibilités conséquentes. Alors pour essayer d'exploiter cela, les chercheurs aussi ont préparé ces matériaux et essayer finalement de préparer des mélanges SP2O3 antimoine. Et un exemple, intéressant, est indiqué ici, où les chercheurs sont partis d'un alliage MG3-SB2 qui se traitait en présence d'acide tartrique pour obtenir cette microstructure dans laquelle vous avez en bleu bien la partie antimoine et à la surface, due à une réaction d'oxydation du SB2O3. Et là, ils ont utilisé cette fameuse composite mésostructurée, comme vous pouvez l'appeler, pour étudier les comportements électrochimiques. D'où, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Vous allez voir par la suite, on a tout simplement rien d'autre que les réactions indiquées auparavant, dans lesquelles on va tout simplement avoir dans ce cas, tout d'abord, SB2O3 qui va se transformer en antimoine, plus ensuite la réaction d'alliage, ou, les deux concomitantes à cet état, et ainsi de suite. Et grâce à cela, on a les courbes électrochimiques indiquées ici. Et voilà ici, j'ai mentionné ici la première décharge. Et vous voyez qu'entre la première décharge et la deuxième décharge, vous avez 300 mAh par gramme de différence. Et là aussi, lorsque vous allez vouloir faire une cellule sodium-ion, il va falloir balancer la capacité d'électrode positive et d'électrode négative et compenser pour ces 300 mAh par gramme. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, on va pouvoir faire directement des étapes de présodiation pour compenser cela. D'où, vous avez directement les performances électrochimiques d'une cellule complète avec Na3V2PO4 trois fois. Avec ici cette capacité, alors cette capacité, vous ne faites pas de souci, c'est parce que c'est la capacité de la cellule, c'est la capacité reportée par la masse d'électrodes négatives, pas celle de positive. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait. Alors ensuite, passer des oxydes au sulfure. Et là, ce que je voulais montrer, c'est là aussi les mêmes types de réactions cumulant alliage plus réaction de conversion, dans lesquelles on va regarder maintenant le composite de sulfure d'étain et d'oxyde de graphène réduit. Donc cela est préparé par une réaction basse température en autoclave et on obtient bien SnSO2 qui, lors de la décharge, vous voyez bien ce qui se passe, effectivement, on va dans ce cas avoir dans ce cas la réaction de conversion, vous voyez, on va former Na2SO2 et ensuite on a la réaction d'alliage. D'où la courbe électrochimique dans laquelle on est très loin quand même de la théorique, on est à 600 mAh par gramme, avec une fois de plus, je dirais, une capacité irréversible, 150 mAh par gramme. Voilà, et je pourrais ainsi continuer sur ces réactions, je dirais, cumulées de conversion et d'alliage, et je terminerai sur cet exemple, sur ces exemples, où tout cela a été généralisé dans le cas des sulfures du bismuth, dans le cas des sulfures de germanium, et dans le cas des phosphures de germanium, où, là aussi, regardez de nouveau les aspects pratiques. Là, on est en train de faire une composite bismuthoire avec un polypyrrole. Dans ce cas, on est en train d'aller se creuser la tête à faire du GS2 avec des feuillets de 1,2 nanomètre. Et vous voyez tout simplement l'aspect pratique de tout ça. D'où, pour arriver à la conclusion de ces anodes, si je peux essayer de dire qu'est-ce actuellement qui se fait, là aussi, une fois de plus, pour essayer d'améliorer la puissance ou le comportement en puissance de ces matériaux, si on regarde simplement l'équation ici, on s'aperçoit que la tortuosité va être un point important, la porosité, ainsi que le coefficient de diffusion intrinsèque. Donc bien sûr, il va y avoir l'identification de nouveaux matériaux, mais une fois de plus, jouer avec, dans ce cas, la porosité et la tortuosité, et également jouer, comme vous pouvez voir ici, avec les différentes sortes d'alliages, et vous voyez ici toutes ces fancy morphologies de sapins, d'étoiles, et ainsi de suite, pour créer vos matériaux d'électrons négatifs. Alors tout cela, alors bien sûr, on vous démontre également qu'on peut faire avec une 0,50 mg 54 mg par centimètre carré, qu'on peut faire une 18,50. Okay, donc voilà les genres d'études que l'on voit, et tout ça, ça montre bien sûr que tout cela, ça pourrait être intéressant. Mais il faut bien prendre en considération que si on va à l'échelle de nanoparticules, si on fait tout ce travail, si je peux dire, beauté au niveau structuration du matériau, ce qui est important dans une batterie, c'est la densité tapée et la quantité de matière finalement que l'on peut mettre. Et lorsqu'on fait tout ça, finalement, on fait de la neige. D'où, pour conclure, ce sera relativement simple, sur les électrodes négatives de carbone, je vais encore une fois de plus me comparer à ce qui s'est passé dans le cas du lithium-ion. Vous voyez que dans le cas du lithium-ion, on a commencé en 1980, vous avez fait l'histoire il y a 2 ou 3 ans, avec les carbones mous. On a eu les graphites naturels synthétiques, les carbones durs, et les composites carbone-silicium, qui, aujourd'hui, sont dans le marché, avec tout d'abord 10% de silicium, et même des produits actuellement sont développés avec 50-60% de silicium. Dans le cas, de l'électrode négative du sodium-ion, vous ne cassez pas la tête, aujourd'hui il y en a réellement une seule, c'est tout simplement les carbones durs. Et ils ont été travaillés, considérablement. On a des carbones durs qui ont des capacités de 350 à 370 mAh par gramme, et il y aura certainement un espoir, et on y arrivera, je pense, pour sûr, à développer des composites carbone éteint. Cependant, il y a encore une recherche, de longue haleine, pour arriver à trouver les bons électrolytes, surtout compatibles avec les électrodes positives que l'on veut faire. Donc voilà, si vous voulez, l'importance de tout ça. Et qu'est-ce que, j'espère, on a pu apprendre de ce passage sur le cas des électrons négatifs, et bien même sur les électrons positifs, c'est que dans ces accumulateurs, et bien il y a un élément qui est très important, et c'est tout simplement les électrolytes. Et comment dessiner, comment trouver les bons additifs pour optimiser un système. Et c'est maintenant ce que je voudrais vous expliquer, comment on va faire ça, quelle est la méthodologie, et ainsi de suite. Alors vous voyez, on a tout simplement vu les problèmes électropositifs, alors qu'on va appeler la CEI, les problèmes électronégatifs qu'on va appeler la SEI, et maintenant eh bien, on va voir comment, grâce à des électrolytes, grâce à des choix intéressants d'électrolytes, eh bien, on va pouvoir pallier aux difficultés qu'on a rencontrées et obtenir des accumulateurs avec de bonnes performances. Alors pour introduire les électrolytes, je vais quand même profiter de 4 ou 5 minutes pour vous faire un peu un rappel de ce que c'est, qu'est-ce qu'on cherche, quelle est la difficulté et quels sont les paramètres clés qu'on va regarder. Alors tout d'abord, et c'est une slide que j'utilise fréquemment, il faut bien savoir que lorsque vous utilisez des électrolytes, eh bien malheureusement, on travaille toujours en dehors du domaine thermodynamique. Je prends ici le cas de la batterie au plomb qui travaille en milieu aqueux. C'est une batterie qui, théoriquement, eh bien, elle devrait délivrer que 1,2-1,4 volts. Heureusement, d'ailleurs, elle délivre 2,1 volts. Pourquoi ? Parce qu'on a des réactions parasites, évolution de l'oxygène, de l'hydrogène, mais c'est, on va directement ajuster la cinétique de ces réactions. Et on va faire en sorte que ces réactions, la cinétique de ces réactions de décomposition, de formation d'espèces parasites, sera relativement lente. Alors, qu'est-ce que cela a à faire avec le cas des électrolytes pour le sodium ou pour le lithium ? Eh bien, vous allez comprendre très simplement. Maintenant, on passe d'un système aqueux à un système non aqueux. C'est-à-dire que je suis avec des molécules organiques et je vais pouvoir définir, comme indiqué ici, eh bien, les orbitales, vous connaissez très bien, les HOMO, qui sont les plus hautes orbitales occupées, et les LOMO, les plus basses orbitales inoccupées. Alors, ces orbitales, eh bien, on va les placer tout simplement maintenant dans un diagramme. Et voilà ici, directement, les orbitales associées, finalement, au couple redox, ou à la stabilité redox, à réduction en oxydation de l'électrolyte. Et, de chaque côté, j'ai mon électrode directement, l'anode et la cathode. Donc, bien sûr, voilà mon accumulateur. Les deux niveaux, qui sont les niveaux de Fermi des matériaux, sont au même niveau. Maintenant, si je veux avoir directement une énergie, je suis obligé directement d'avoir des matériaux dont les potentiels redox, dont le niveau de Fermi va être différent. Et vous voyez que là, je suis dans une situation dans laquelle le niveau de Fermi des matériaux se trouve à l'intérieur de l'HOMO. Mais malheureusement, ça c'est intéressant, mais je n'ai pas assez de potentiel de sortie. Donc je veux eh bien, avoir des matériaux qui sont très oxydants, NMC et ainsi de suite, ou très réducteurs, comme le carbone. Et vous voyez qu'en ce cas, je suis en dehors des potentiels thermodynamiques. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsque j'ai un matériau dont le niveau de Fermi eh bien, va être supérieur à l'HOMO, je vais avoir, en ce cas, une réduction, former une SEI, alors que dans d'autres cas, eh bien, je vais avoir une oxydation et j'aurais dû mettre ici CEI. Donc voilà directement la difficulté et vous devez réaliser eh bien, que toutes les batteries eh bien, fonctionnent en dehors de leur domaine de stabilité thermodynamique, raison pour laquelle on a tous ces problèmes d'interface et les interfaces, c'est vraiment le cauchemar aux électrochimistes. Alors, est-ce que notre situation est simplifiée lorsqu'on passe du lithium au sodium? Mais vous allez voir que pas réellement. En effet, je vous trace ici finalement le potentiel, voilà mon lithium, avec mon électrode positive, et je vous mets le cas du sodium. Et vous voyez qu'en ce cas, ce que j'avais montré au premier cours, eh bien vous avez dans ce cas une différence de 300 millivolts. Eh bien, ça veut dire que définitivement, la réduction eh bien, à l'électrode négative sera moins sévère, mais, et on va le voir par la suite, eh bien, il va y avoir des difficultés, puisque directement, l'acidité, si je peux dire, de Lewis du sodium est inférieure à celle du lithium. Vous allez avoir une solubilité des espèces secondaires qui va être différente, et ainsi de suite. Par contre, maintenant, lorsqu'on va directement à l'électropositif, vous voyez qu'en ce cas, je suis encore plus haut en potentiel. Et lorsque, dans le cas de NVPF, lorsqu'on est à 4,7 volts, et bien sûr, dans ce cas, vous allez avoir largement de dégazage. Tout ça, c'est un aspect à considérer. Ensuite, et bien, ce genre de réaction de CSEI ou CEI vont se former. Il va générer des produits de décomposition. Et ces produits de décomposition, on peut les mettre ici en fonction, je dirais, de leur conductivité ionique. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas eh bien, de la technologie à ion lithium, vous avez tous ces composés ici en gris, et dans le cas du sodium, vous avez les composés en bleu. Et qu'est-ce que vous notez ? C'est que tous ces composés de décomposition, en termes de conduction ionique, eh bien, ont une conduction ionique moindre que les composés au lithium. Ça veut dire que les SEI que vous allez former, eh bien, le fait que le lithium doit directement passer à travers la SEI, le transfert de charge risque d'être compliqué. Tout ça, c'est des considérations qu'il va falloir avoir dans le cas des technologies sodium-ion. Alors ensuite, on peut se dire, mais bon, pourquoi toutes ces interfaces sont relativement sont importantes ? Eh bien, pourquoi elles sont importantes ? Vous pouvez le voir ici, c'est qu'elles vont tout simplement influencer fortement les performances de la batterie. Notamment la puissance, la durabilité, sa sécurité, sa cycle de vie, sa vie calendaire. D'où, raison pour laquelle il faut travailler sur cette SEI, et c'est certainement, comme on le dit souvent, le phénomène le plus important dans les batteries, mais encore à ce jour, le plus mal compris, malgré toutes les techniques de caractérisation ou techniques analytiques qu'on a. D'où, il va falloir dans ce cas, bien trouver les bons solvants, les bons sels et les bons additifs. Et une fois de plus, malheureusement, on n'a pas du machine learning ou d'intelligence artificielle, il va falloir directement utiliser eh bien, 28 ans d'expérience dans le cas du lithium-ion et voir ce qu'on a appris pour, du moins, avoir certaines directions. Mais attention, ne pas faire ça à l'aveuglette, car il va y avoir des différences, dont notamment, je vous ai mentionné, l'acidité du sodium par rapport au lithium. Alors, si on va faire des électrolytes, eh bien, il y a quelques concepts de base que je voudrais également vous rappeler. Tout d'abord, relié à la conductivité ionique. La conductivité ionique d'un électrolyte est donnée par la simple formule ici, sigma, dans laquelle vous avez Ni et mu de I. Ni, eh bien, ça va être tout simplement, dans ce cas, le nombre d'espèces en solution, c'est-à-dire la façon dont vous avez dissocié votre sel. Donc, par conséquent, ce nombre de dissociations, il va être relié à une constante qui est très importante dans le concept de nouveaux électrolytes, qui est la constante électrique. La constante électrique n'est rien d'autre que la force qui va tout simplement séparer les charges entre les différents ions. Et c'est elle qui va finalement régler, je dirais, la viscosité et ainsi de suite. Ensuite, eh bien, il y a un autre paramètre qui va être la mobilité. Cette mobilité, eh bien, elle va être directement donnée par la formule indiquée ici, dans laquelle deux valeurs sont très importantes, le rayon de Stokes, dont on a parlé lors du premier cours, et dont je vais revenir dans le transparent suivant, et la viscosité. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, qu'est-ce que pour avoir finalement des molécules, des ions qui bougent rapidement, eh bien, on peut avoir directement des viscosités ou des milieux faiblement visqueux. D'où on arrive à un dilemme dans le choix des électrolytes, que finalement, il y a très peu d'électrolytes qui vont présenter une constante électrique, eh bien, qui vont être élevées, et une viscosité faible. Raison pour laquelle, dans la conception des électrolytes, vous ne verrez jamais un électrolyte, mais au moins deux électrolytes. Et on va l'avoir par la suite. Alors pour ce faire, eh bien, maintenant, vous avez finalement tous les éléments pour concevoir certains électrolytes, et eh bien c'est ce qu'on va faire. Alors voilà directement ce sur quoi on va travailler. Vous avez différents types d'électrolytes, différents types de solvants, différents types de sels. Et là, eh bien, le jeu ça va être tout simplement de trouver la bonne combinaison. Et ça, d'ailleurs, c'est un travail qui date, je dirais, de 12 ou 15 ans, qu'on avait commencé avec Rosa, où on avait directement testé ces différents types d'électrolytes. Et ce que vous avez rapporté ici, c'est pour chacun d'entre eux, avec en noir la conductivité et en vert la viscosité. Et vous voyez que, dans ce cas, eh bien, si j'utilise le même solvant, eh bien, je vais tout simplement avoir des valeurs différentes selon la nature du sel. Ensuite, ici, vous avez tout simplement les mêmes représentations, mais dans ce cas, où on va utiliser le même sel et changer la nature des solvants. Et vous voyez là aussi le comportement eh bien, des composés, dans ce cas, des carbonates linéaires DMC ou cycliques PC. Et vous voyez que dans ce cas, lorsque vous associez les deux, avec une meilleure je dis, harmonie de la viscosité et également de la conductivité. D'où tout cela, ça marche bien, mais il y a quand même une différence essentielle entre, une fois de plus, le lithium et le sodium, ce sont ces fameux BLIM qui, dans le cas du lithium, eh bien, ont, je dirais, une solubilité qui est relativement faible comparée au sodium, et on va voir comment on peut s'en sortir. Alors la question qu'on peut se poser, bon, quelles sont les implications de cette différence de conductivité ou de diffusion avec le lithium-ion et le sodium-ion ? Eh bien, je vais essayer de résumer tout cela dans le transparent suivant, dans lequel, ici, je vous rapporte, une fois de plus, le rayon hydrodynamique du lithium par rapport au sodium. Et vous avez montré, pour expliquer pourquoi le premier cours, ce rayon vient de Stokes, et plus important dans le cas du lithium que dans le cas du sodium. Et bien cela va bien sûr influencer la viscosité de votre électrolyte. Et vous le voyez très bien ici, que dans le cas avec le lithium, vous allez avoir une plus grande viscosité que dans le cas du sodium. Quelles sont les conséquences de tout ça? Elles sont, je dirais, nombreuses. C'est-à-dire, elles sont nombreuses au niveau de la conductivité ionique. Si vous regardez la conductivité ionique de deux mélanges, vous voyez qu'en ce cas, une fois de plus, la conductivité ionique est meilleure pour le sodium que pour le lithium. Si vous regardez maintenant le coefficient de diffusion, la même histoire. Et si vous regardez maintenant le nombre de transports, eh bien, vous avez un nombre de transports qui est supérieur une fois de plus pour NaPFS que pour lithium-PFS. D'où automatiquement, c'est la raison pour laquelle eh bien, toutes ces figures de mérite, si je peux dire, en termes de valeur intrinsèque d'électrolytes, eh bien, sont relativement intéressantes et utiles pour des applications de puissance. Et c'est la raison pour laquelle ces technologies sodium-ion, dont on va voir par la suite, sont effectivement très performantes au niveau puissance. Et en effet, si je regarde maintenant quels sont les avantages de ces différentes sortes de figures de mérite, eh bien, je m'aperçois que si je regarde au niveau du contrôle potentiel, eh bien, si vous avez une augmentation, une diminution de la chute ohmique, transfert de charge, dans ce cas, vous allez avoir une polarisation qui va être directement plus faible. Ensuite, si vous voulez cycler ou charger vos accumulateurs à potentiel constant, eh bien, vous apercevez qu'à potentiel constant, automatiquement, je vais pouvoir obtenir plus de capacité dans le cas du sodium que dans le cas du lithium, où c'est directement la signification de ces courbes. Et enfin également, un graphe qui est très intéressant, c'est dans lequel, dans ce cas, je prends directement ma même électrode, je prends un carbone par exemple, et je vais, connaissant ces figures mérites de chacun des électrolytes, simuler directement l'évolution de l'état de charge en fonction du régime de décharge. Eh bien, bon, à très grand régime de décharge, je suis limité par le matériau, mais vous voyez qu'ici, eh bien, je peux tirer beaucoup plus de courant avec des électrolytes de sodium qu'avec des électrolytes de lithium. Donc tout cela vous montre directement l'avantage du sodium en termes de puissance. Et cet avantage, il se concrétise sur ce transparent indiqué ici, dans lequel vous avez ici la technologie NVPF carbone dont je vous ai mentionné. Vous voyez qu'en ce cas, bien, on peut tout simplement avoir ou tirer 80% de la capacité à des régimes de décharge de 20C. Dans le cas des technologies NMC, elles sont relativement plus limitées, mais on peut tirer à 6C 83%, ce qui, dans l'équivalent de lithium-ion, est, je dirais, moins évident. Et enfin, vous avez la technologie bleu de Prusse, qu'on a déjà mentionnée, où dans ce cas, eh bien, on a, je dirais, 60% à 20C en charge. Alors, faites attention ici, je ne suis quand même pas tellement cohérent dans le fait où je vais comparer la décharge d'un cas et la charge en bas. Je dirais 60% à 20C en charge, ça veut dire que ce matériau a également 80 ou 85% en décharge, voilà. Donc définitivement, vous voyez comment eh bien, on peut avoir un avantage dans ces technologies sodium-ion dues aux électrolytes. Donc, je vous ai montré jusqu'à maintenant toutes ces spécifiques des figures de mérite. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer finalement une autre figure de mérite, je dirais, qui est très importante, qui est tout simplement qui est la stabilité électrochimique de ces électrolytes. Car il faut une fois de plus travailler à haut et bas potentiel. Et là, c'est des mesures qu'on fait quand on commence les travaux sur de nouveaux électrolytes, de savoir dans quel domaine je pourrais l'utiliser. Vous avez ces courbes électrochimiques qu'on peut obtenir à partir de cellules 3 électrodes qui sont mentionnées ici en dessus. Et à partir de ça, eh bien, on peut faire, je dirais, une étude systématique dans laquelle, ici, je vous représente en noir la stabilité électrochimique des différents matériaux. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a des stabilités électrochimiques qui vont directement de... Allez, 0,2 à 4 ou 5, on peut aller jusqu'à même avec PC, et ainsi de suite, jusqu'à des potentiels de 5 volts, et ainsi de suite. Et ces stabilités électrochimiques, eh bien, elles dépendent de pas mal de choses. Elles dépendent, vous voyez, du sel. Vous voyez ici le même directement solvant. Vous voyez que selon les sels, eh bien, on a des stabilités électrochimiques plus élevées. Par exemple, vous voyez qu'en ce cas, bon, NaPF6 va vous donner une stabilité électrochimique relativement importante. Et ensuite, vous avez les différents binaires. Et enfin, ce qui est important, c'est que vous avez également une variation de la stabilité électrochimique en fonction du matériau d'électrode. Et ça, c'est une étude, je crois que j'avais fait il y a de cela 25 ans, dans laquelle on avait montré que, finalement, eh bien, si j'utilise, c'était l'électrolyte que les gens utilisaient jusqu'à l'époque, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, j'avais une instabilité à 4,3 volts. Et en utilisant le fameux électrolyte que vous utilisez tous aujourd'hui, la LP30, eh bien, on a pu porter directement cette stabilité électrochimique à des potentiels de 4,8 volts. Donc voilà, si vous voulez, l'importance, je dirais, du domaine de stabilité qui va être affecté par de nombreux paramètres. Et là aussi, une fois de plus, eh bien, ça va être simplement des méthodes essais-erreurs qui vont primer pour trouver le bon électrolyte. Alors, si c'est des méthodes essais-erreurs, eh bien, je vais vous montrer maintenant, presque sur un cas bien spécifique, comment on peut partir d'un matériau d'électrode ou d'une batterie par elle-même et optimiser l'électrolyte. Et on va revoir certaines des notions que je vous ai directement introduites. Donc, je vais commencer par ce matériau NVPF. Alors, si on regarde ce matériau NVPF, au départ, on pouvait s'amuser à le faire cycler. Et on regarde tout d'abord, j'ai mentionné que si je mets qu'un solvant unique, vous voyez directement, lorsque je mets un solvant unique, c'est catastrophique. Okay. Par contre, si je mets un solvant unique, mais le PC ou le EC, c'est nettement mieux. Si maintenant je mets des mélanges de solvants, comme indiqué, mais là vous voyez que c'est mieux. Et dans ces mélanges de solvants, regardez, intéressant, vous avez un composé, vous avez des composés, DMC, qui ici est catastrophique, et ici, apparemment, ne joue pas un rôle important. Bien sûr, la question c'est pourquoi. Et la réponse, je vous l'ai déjà donnée, si vous avez suivi le cours, c'est-à-dire que je voulais mentionner que eh bien, vous avez directement différentes constantes électriques. Et ces carbonates cycliques, comme le EC, le PC, ont des constantes électriques relativement importantes. Ça veut dire qu'ils vont solvater préférentiellement eh bien, l'ion. D'où par conséquent, eh bien, lorsque vous mettez cela ensemble, lorsque vous êtes à l'interface, vous avez directement à l'interface eh bien, une concentration importante de EC lithium plutôt que de DMC lithium. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce cas, ce que vous regardez, c'est tout simplement la réduction du EC et non du DMC. D'où le fait, directement, de jouer avec cette différence de solvant, cette différence de constante électrique, vous permet directement d'ajuster le type de décomposition, de réduction que vous avez à votre électron négatif. D'où, eh bien, en faisant cela, on a pu déjà déterminer différents types de solvants et, ayant des performances qui sont relativement intéressantes, la suite a été directement, peut-on généraliser cela et allons voir ce qui se passe, bien sûr, à haute température et basse température. Parce qu'un accumulateur, bon, lorsqu'on fait en recherche du laboratoire, eh bien, on peut s'amuser directement à faire température ambiante. Au niveau des applications pratiques, il faut savoir le comportement à haute température et à basse température. Et là, eh bien, à l'époque, on est allé voir directement ce qui se passe à 55 degrés et on s'est aperçu qu'à 55 degrés, eh bien, le comportement qui était, je dirais, magnifique à température ambiante, se dégradait fortement et au point que, finalement, ces accumulateurs avaient une autodécharge gigantesque, si bien qu'après, je dirais, un mois, vous n'aviez plus du tout de la densité d'énergie au sein des accumulateurs. Donc, par conséquent, eh bien là, il y a définitivement un problème de performance et la question, pourquoi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va à 55 degrés C? Et pourquoi quelque chose qui peut fonctionner correctement peut être catastrophique à 55 degrés. Donc là, je vais encore revenir sur des concepts de base, en vous montrant directement que quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'aller à 55 degrés. Donc, si je regarde, eh bien ici, notez que, bien sûr, comme avantage, j'ai une résistance interne plus basse, j'ai une plus haute mobilité, d'où je vais pouvoir avoir accès à plus de capacité, plus d'entité d'énergie, d'où j'ai plus d'entité d'énergie. Par contre, puisque j'ai une plus grande mobilité à haute température, automatiquement les ions vont boucher et le taux de charge va être plus grand. Et puis, notez ici, malheureusement, lorsque je vais à haute température, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est que ces réactions parasites sont des réactions cinétiques. C'est des réactions cinétiques qui sont augmentées, qui vont varier avec la température. Donc plus j'augmente la température, plus je vais avoir ces réactions, avec des problèmes de gaz et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, définitivement, c'est l'électrolyte qui contrôle la sécurité et les performances des cellules à différentes températures. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que lorsqu'on va augmenter la température, comme je l'ai mentionné ici, eh bien, il va y avoir, dans ce cas, des réactions parasites, que ce soit au niveau de l'électrode positive, que ce soit au niveau de l'électrode négative et qui vont être exacerbées. Plus, à haute température, vous allez également avoir des problèmes de solubilité de certains éléments de votre matériau d'électrode positive. En l'occurrence, si vous utilisez NVPF, ça sera le vanadium. Donc voilà, si vous voulez, l'ensemble des difficultés que vous allez rencontrer. Alors la question, bien sûr, c'est finalement, eh bien, il y a nécessité de comprendre tout cela et de revenir à du fondamental et voir finalement les électrolytes qu'on a proposés, notamment à base de DMC, pourquoi finalement ils n'étaient pas corrects. Alors pour ce faire, eh bien, on va revenir à des techniques, je dirais, relativement simples de laboratoire, dans lesquelles on va essayer de tester, de voir ce qui se passe à l'intérieur de ces accumulateurs. Et pour ce faire, eh bien, comme vous le pouvez voir ici, on va prendre des cellules 4 ou 5 électrodes, dans lesquelles on va tout simplement cycler notre accumulateur, et on va s'arrêter à ces différents potentiels indiqués ici, pour faire directement de la cycovoltamétrie. Et vous voyez que si je fais cela dans le cas d'un seul électrolyte, notamment d'un carbonate cyclique, qui est le carbonate éthylène, puis vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, j'ai tout d'abord peu ou une réversibilité, mais qui est relativement pas énorme, et je n'aperçois aucun pic en cycovoltamétrie. Ça veut dire qu'a priori, eh bien, mon électrolyte est relativement stable. Si je fais, dans le cas du DMC, qui est ce carbonate qui est non linéaire, dont la formule est indiquée ici, vous voyez directement ici l'irréversibilité qui est gigantesque. Et maintenant, lorsque je fais la même expérience où je regarde en cycovoltamétrie ce que j'observe, eh bien, vous apercevez que maintenant, j'ai deux activités à des potentiels différents. Ces activités, eh bien, elles correspondent tout simplement à la formation de sodium méthoxy, de sodium alkylcarbonate, qui proviennent tout simplement d'une coupure de la liaison du groupe carbonyl dans chacun d'un côté droit ou du côté gauche pour me donner ces deux espèces. Tout cela, clairement, montre que dans le cas directement de ces systèmes, eh bien, le DMC n'est pas recommandé. D'où la question était finalement, est-ce qu'on peut changer le DMC ou trouver d'autres additifs pour compenser ou limiter ces réactions. Alors là aussi, lorsque vous voulez compenser ces réactions, vous êtes obligé de trouver de nouveaux additifs, et la question c'est comment choisir ces nouveaux additifs. Et là aussi, je vous montrerai une fois de plus, finalement, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir lorsqu'on va ajouter des additifs. Bien, je vous remontre ce diagramme thermodynamique, comme indiqué ici, dans lequel vous retrouvez tout ce que j'ai montré auparavant. Et maintenant, eh bien, je veux contrôler la nature de ma SEI. C'est-à-dire que je vais être obligé de mettre des additifs qui vont, si je peux dire, se décomposer avant ces extrêmes. Car je vais en mettre une quantité limitée qui va se décomposer pour aller créer consciemment ma SEI. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je veux tout simplement des molécules dont les homo et l'humo vont se trouver directement entre ces deux barrières de mon électrolyte principal. Alors cela, bien sûr, on peut le faire, et on a fait ça pendant 20 ans dans le cas des bataillons lithium, on a une idée de ces différents additifs, mais on peut également se servir, je dirais, de calculs de dynamique moléculaire pour avoir une idée des domaines potentiels de ces différents additifs. Et vous avez ici des calculs qui ont été faits avec le groupe Mathieu Salan à Paris, dans lequel, vous voyez, vous avez un additif ici, qui est ODFB, qui est sodium oxodifluoroborate. Et cet additif se trouve également tombé, je dirais, dans ce domaine. D'où par conséquent, eh bien, on a essayé tout simplement d'ajouter cet additif et de comprendre ce qui s'est passé. D'où tout cela, ces calculs théoriques, je dirais, ont fourni, du moins, ou nous ont renforcé dans certains choix qu'on avait pris pour faire ces études. Donc maintenant, bien sûr, vous identifiez un additif, et la question, c'est comment on peut savoir si cet additif va donner une bonne SEI, c'est-à-dire une bonne solide électrode interface, ou non, à électrode. Alors pour cela, on va également développer des méthodes, je dirais, analytiques, qui sont relativement simples, comme indiqué ici, c'est dans lequel on va faire de la cycovoltamétrie, en prenant dans ce cas eh bien, du carbone vitreux comme électrode de travail, et on va aller tout simplement prendre les électrolytes avec ces additifs, 1, 2, 3, et on va faire une réduction sur ce carbone vitreux. Et vous voyez, lorsque vous prenez le premier cycle, vous avez ce gros pic qui montre tout simplement qu'en ce cas, c'est tout simplement cet additif eh bien, que vous travaillez, vous allez transformer, vous allez créer une couche, une SEI. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé cette SEI, Et bien après, vous pouvez voir plusieurs cycles, vous voyez directement en noir, 4 ou 5 cycles. Et la question qui se pose pour nous, c'est de savoir, est-ce que cette SVI va être stable sur plusieurs cycles? Donc nous là, la manip est très simple, on va faire 5 cycles et on va attendre 5-10 minutes. Et ensuite, on va refaire un cyclage. Et lorsqu'on refait un cyclage, eh bien, si je vois une autre vague, ça veut dire tout simplement que j'avais formé cette SEI, mais une partie s'est dissous, d'où je vais en régénérer au cycle suivant. Vous voyez dans ce cas, un cas qui est mauvais, on a un problème, d'où il faut rajouter notre additif, et c'est ce qui a été fait ici, pour obtenir, dans ce cas, eh bien, une SEI relativement stable. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire, une fois de plus, au niveau de ces tests. Et là aussi, cela va nous renseigner sur la valeur ou l'apport d'un additif, mais par contre, bien sûr, on ne peut pas savoir quelle va être la synergie qu'il peut y avoir entre différents additifs. Mais c'est grâce à cela eh bien, qu'on peut finalement, qu'on a pu directement optimiser, je dirais, un électrolyte, mais dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, je suis dans un cas d'électrolyte ECPC. Et lorsqu'on passe à l'aspect pratique, eh bien, la question a été maintenant, j'ai tout simplement une cellule, j'ai un électrolyte, et maintenant j'ai deux solvants qui sont deux cycliques, ECPC, qui sont très visqueux. Et la question, c'est comment je vais directement rentrer mon électrolyte, infiltrer la porosité de mes électrodes et voir de mon séparateur. Donc là aussi, eh bien, difficulté à injecter, où il faut revenir à la paillasse et voir comment on peut modifier notre électrolyte. Alors bien sûr, l'apport, ou l'idée est très simple, c'est-à-dire que j'ai sorti mes carbonates linéaires parce qu'ils étaient très volatiles, ils apportaient bien sûr beaucoup, ils diminuaient la viscosité, donc je vais tout simplement essayer maintenant de le concevoir et d'utiliser maintenant ce DMC, et bien je vais changer mes additifs pour que ces additifs me permettent directement de fonctionner avec DMC. Donc voilà si vous la démarche. Alors si je fais ça, eh bien c'est bon, j'ai un électrolyte qui est compatible avec les séparateurs commerciaux, il permet d'atteindre des tensions d'oxydation élevées, mais est-ce que ce nouvel électrolyte qu'on appelle toujours magique est vraiment magique? Et la question, eh bien, ou la réponse, je peux dire, elle se trouve ici. Vous voyez que ce nouvel électrolyte, eh bien, lorsqu'on fait ça en cellule réelle, eh bien, on s'aperçoit qu'après 60 cycles, eh bien, vous avez une pression interne qui se construit au sein de la batterie et qui fait que des fois, la valve de sécurité s'ouvre, ainsi de suite. Donc par conséquent, un électrolyte qui fonctionnait correctement à température ambiante, qui fonctionnait a priori à 55 degrés, du moins pour 20 cycles, eh bien, s'avère être problématique. Donc c'est là qu'il a fallu faire, je dirais, la dernière itération en ajoutant un autre additif qui est, dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, qui est de la molécule succinyltryl. Et cette molécule, eh bien, elle a été ajoutée une fois de plus par la connaissance, je dirais, du travail dans le cas du lithium-ion, où un tel composé eh bien, avait été utilisé, qui se décomposait à l'électrode positive et qui allait, dans ce cas, eh bien, maîtriser la CEI à l'électrode positive. Et c'est grâce à cela eh bien, qu'on a pu, finalement, développer cet électrolyte dont les différents composants sont indiqués ici et, je dirais, obtenir, dans ce cas, eh bien, des cellules qui fonctionnent à relativement potentiel, car cet additif, eh bien, combiné avec le VC, il y a une synergie entre la double liaison de VC et la triple liaison de SN qui permet d'avoir des réactions de polymérisation radicalaires se faisant à haute température et conduisant à cette couche nanométrique, je dirais, de polymère. Donc voilà, si vous voulez, comment eh bien, l'électrolyte a été, je dirais, après 10 ans de recherche, optimisé pour conduire finalement à des performances en cycle complète où on peut maintenant atteindre les 6000 voire les 10000 cycles où dans ce cas les autodécharges eh bien, sont de 5% par an et où la puissance peut être directement comparée avec le cas de la technologie SKIP. Et cela, comme je vous l'avais donné au premier cours, a directement construit ou conduit à le développement de cette compagnie Tiamat. Donc voilà, si vous voulez, l'histoire que je vous ai fait pour, je dirais, la technologie NVPF carbone. Malheureusement, cette histoire, on ne peut pas la transplanter aveuglément tout ou à un autre matériau d'électrode. C'est-à-dire que si je vais, on va le voir par la suite, si je vais aller sur des composés lamellaires, si je vais aller sur les prochaines blues, il va encore falloir ajuster l'électrolyte avec de nouvelles innovations. Et je vais, si le temps... Ah oui, non. J'ai été long aujourd'hui. OK. D'où je pense que... Je vais m'arrêter là, puisque sinon je vais vous tenir encore pendant une demi-heure, je crois. Dans ce cas, pour, effectivement, vous allez voir que dans le cours suivant, on va revenir sur le problème d'électrolyte à l'état liquide, et ensuite on passera à l'état solide. Okay. Mais chaque système par lui-même va demander des applications. Voilà, merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.